Bonjour, je suis en ligne avec Sandy Tirté, un jeune ingénieur belge qui travaille pour une société basée à Auckland. La société s'appelle Rocket Lab et vous en avez peut-être entendu parler parce que récemment elle a fait les gros titres après avoir réussi un petit exploit dans le monde de l'espace. Elle a réussi à propulser 3 petits satellites en orbite. Sandy Tirté nous raconte son parcours mais nous dit aussi pourquoi ce lancement est une première mondiale.
Mon rôle consiste à diriger le lancement. Il y a plusieurs groupes qui s'occupent soit du pas de tir, soit de différentes parties du véhicule. Et mon rôle consiste à synchroniser tous ces groupes et finalement organiser le lancement et autoriser le lancement à la fin ou l'arrêter s'il y a un problème qui est détecté.
Alors, quand vous dites véhicule, ça veut dire fusée?
Oui, c'est ça. On l'appelle le véhicule parce que sa fonction est de transporter une charge utile du pas de tir jusqu'à l'orbite choisie par le client. Mais oui, il s'agit d'une fusée cryogénique, c'est-à-dire une fusée avec des carburants liquides à très basse température.
Racontez-nous votre parcours. Vous êtes belge, je l'ai dit, et vous avez donc voyagé de Mons à Auckland et quitté une carrière universitaire toute tracée pour une aventure dans le privé.
J'ai fait mes études en Belgique et un peu au Québec, et ensuite j'ai fait mon doctorat en Belgique à l'Institut Van Kerman. À la fin de mon doctorat, j'avais envie de faire des expériences en vol hypersonique, c'est-à-dire avec des véhicules qui vont beaucoup plus vite que la vitesse du son. J'ai déménagé en Australie pour faire quelques tests dans le désert australien, en testant des super statoréacteurs. Et à la fin de mon projet en Australie, j'ai entendu parler de Rocket Lab, qui cherchait quelqu'un pour diriger l'équipe responsable de construire le véhicule. C'était il y a 4 ans et demi. Et donc j'ai organisé la construction du véhicule jusqu'à à peu près 1 an et demi où j'ai changé de fonction et je suis passé directeur de vol, ce qui me plaisait beaucoup vu l'aspect excitant que constitue un vol.
Construire des fusées, c'est un rêve d'enfant chez vous?
Disons que j'ai toujours eu le nez dans l'espace. J'ai toujours voulu faciliter l'accès à l'espace. J'étais pas spécialement orienté vers la fusée. J'étais plutôt orienté vers n'importe quel type de véhicule qui me permette d'accéder à l'espace plus facilement. C'est pour ça que j'ai commencé d'abord à travailler sur les statoréacteurs. Et bon, ensuite, je suis passé sur cette fusée.
Alors, quand on pense fusée, satellite, on imagine tout de suite les bureaux de la NASA ou de l'une de ces grosses agences d'État qui ont participé à la course à l'espace dans la deuxième moitié du siècle dernier. Or, Rocket Lab, votre employeur, c'est une compagnie privée. De quoi il s'agit exactement?
On est la première société privée qui n'appartient pas à un milliardaire à réussir à mettre un objet en orbite. Et donc, ben, comme toute société privée, on a dû faire attention à nos dépenses. On a reçu des investissements et on a des buts économiques, forcément, de rentabilité, comme une société normale, quoi, pas comme un gouvernement qui aurait des fonds presque illimités et un temps presque illimité. On avait vraiment un horaire très serré, des contraintes budgétaires, donc on a développé ça comme une société privée normale, en fait, comme une start-up normale. La chose importante à savoir, c'est que ce projet n'est pas juste de construire une fusée. Ce projet est plutôt, par la construction de cette fusée qui est assez bon marché finalement, permettre de donner à des petits entrepreneurs la possibilité d'envoyer en orbite leur satellite et donc la possibilité de faire du business dans l'espace. Et on espère qu'en faisant ça, finalement, on bouge l'espace qui est pour l'instant dans les mains des gouvernements, vu les énormes investissements qui sont nécessaires, on le déplace dans les mains du privé. Ce qui permet en fait d'avoir beaucoup plus de compétition et en général, ce qui permet d'améliorer fortement la manière dont on fait les choses.
On voudrait encore mieux comprendre pourquoi ce lancement a été salué comme une première mondiale, mais aussi, est-ce que le risque en donnant accès à l'espace aux compagnies privées, ce n'est pas que votre technologie tombe en de mauvaises mains?
Quand vous voulez faire la compétition avec des sociétés déjà établies, des grosses sociétés comme Airbus, comme Boeing, vous devez avoir des avantages techniques, sinon vous ne pourrez pas émerger. Et donc, on a de nombreuses innovations à bord. Déjà, je pense qu'on est la première fusée qui est entièrement fabriquée en carbone, qui permet d'être très légère. On a des moteurs qui sont imprimés 3D. C'est le premier véhicule à mettre quelque chose en orbite avec des moteurs imprimés 3D. Et aussi, on a des moteurs électriques, donc c'est-à-dire qui ont des pompes électriques pour faire tourner les moteurs de fusée. Et ça, ce sont nos 3 innovations principales qu'on a dû développer de manière à avoir un avantage technique et pouvoir rivaliser finalement avec nos compétiteurs.
Ce lancement, il a été salué comme une première mondiale par beaucoup. Donc, en quoi peut-il changer la donne de notre rapport à l'espace? Et est-ce qu'on peut imaginer que cette technologie pourrait tomber en de mauvaises mains? Ou est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose avec lequel on fait très attention, on a des règles de sécurité qui sont absolument draconiennes pour justement éviter que cette technologie, un, n'atterrisse chez nos compétiteurs et deux, n'atterrisse, comme vous dites, dans de mauvaises mains. Donc, on a une approche sécuritaire qui est vraiment très élaborée. Maintenant, pour répondre à la première partie de votre question, une chose qui est importante de comprendre, c'est que avant que nous on apparaisse, il y a eu un changement assez fondamental dans le domaine des satellites, qui est qu'un satellite qui prenait avant la taille typiquement d'un bus prend maintenant la taille d'un frigo. Ben, ces satellites qui étaient avant énormes coûtaient énormément d'argent et ils étaient mis en orbite qu'on appelle géostationnaire, c'est-à-dire qu'ils étaient toujours au même endroit par rapport à la Terre. Ce qui permettait, par exemple, un satellite de télévision, ce qui vous permet de tourner votre antenne vers ce point-là, et puis votre antenne n'aurait jamais dû être bougée. Le problème, c'est que vu que ces satellites sont très chers et que l'orbite géostationnaire est très éloignée, les fusées sont énormes pour les mettre en orbite, donc les coûts de lancement sont énormes. Donc on parle rapidement d'un investissement du type 500 millions d'euros, de dollars, et sur une orbite qui est si éloignée de la Terre, bah, typiquement un satellite restait en orbite pendant des centaines et des centaines d'années, même après que son fonctionnement est stoppé. Récemment, il y a eu un changement de taille de ces satellites, mais il n'y avait pas de véhicule qui était finalement adapté à la taille de ces petits satellites. Et c'est ça vraiment qu'on essaie de faire avec Rocket Lab. Et c'est un peu un changement de perspective parce que plutôt que de mettre un des satellites en orbite géostationnaire, donc très éloigné de la Terre, on en met plusieurs dans l'espace qui bougent ensemble comme un réseau en fait. Et quand vous n'en voyez plus un, ben vous voyez l'autre apparaître dans le ciel et tous ces satellites se parlent ensemble. La grosse différence, c'est que premièrement, on peut maintenant, avec la taille d'une fusée comme la nôtre, les mettre en orbite. Et donc, plutôt que d'avoir des centaines de millions de dollars ou d'euros d'investissement, on est plutôt dans les dizaines, peut-être avec 20 millions, 25 millions, vous pouvez avoir un business dans l'espace. Et donc, ça ouvre la porte finalement à énormément de sociétés qui avant n'auraient pas pu avoir ce genre de business. Un autre domaine que je devrais évoquer, c'est que très rapidement, les gens me disent « Oui, mais si on met plusieurs satellites en orbite, vous allez commencer à polluer l'espace. » C'est une idée reçue parce que quand vous mettez un satellite à une altitude qui est bien moindre, à peu près 500 km, les satellites ne restent là qu'à peu près une dizaine d'années, ce qui permet d'être très propre parce que quand un satellite n'est plus fonctionnel, il finit par retomber et brûler dans l'atmosphère et on peut en remettre un nouveau à la place qui a des nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est toute une nouvelle dynamique finalement qui s'installe et une nouvelle manière de voir l'accès à l'espace et l'utilisation de l'espace.
Est-ce qu'une fusée électron sur la Lune, c'est un rêve ou est-ce que c'est quelque chose d'envisageable à moyen ou à long terme?
C'est envisageable. Un de nos clients qui s'appelle Moon Express développe un véhicule qui volera à bord d'électrons et qui aura pour but d'atterrir sur la Lune et de voyager un peu sur la Lune. Donc on sait que notre fusée peut le faire. Bon, c'est un des projets qui est sur notre liste en attendant que d'autres projets voient le jour.
Merci beaucoup Sandy Tirté.
Ben de rien. Merci pour votre interview.